Ah, c'est vrai pour ta parole qui est vivante, qui est tranchante comme cette épée qui vient percer au plus profond de nous. Et Seigneur, nous te prions que tu viennes encore nous parler à travers les Écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit et que ton Esprit ce matin nous donne d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire et aussi de pouvoir mettre en œuvre et en pratique ta parole dans nos vies. Alors viens encore prendre toute la place dans cet instant et qu'à toi revienne toute la gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà. Est-ce que l'Église est un hôpital? Faut se poser la question. Du mois de janvier au mois de mai, pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou qui découvrent un peu notre Église, on consacre chaque mois, de janvier à mai, à un thème important de la vie de l'Église. Et le thème du mois de février, c'était la communion fraternelle, nos relations, comme la vie qu'on a ensemble dans l'Église. Et ce matin, j'aimerais aborder la question de la communion fraternelle sous l'angle de la souffrance. Et de l'Église peut-être comme un hôpital pour les personnes en souffrance. Vous savez, dans les évangiles, on nous rapporte que Jésus mangeait avec des gens qui n'avaient pas forcément très bonne réputation, des collecteurs d'impôts corrompus, des pécheurs en tout genre. Et voyant cela, les scribes et les pharisiens sont choqués. Dans la société juive de l'époque, les scribes, les pharisiens, c'est un peu les gens bien. Les gens bien. Ceux qui font tous leurs efforts pour respecter les commandements de Dieu. Et ils se disent, enfin, comment, Jésus, tu peux manger avec ces gens qui sont pas très bonne réputation, ces pécheurs à la vie désordonnée, peu recommandables. Et voyez ce que Jésus leur répond. Je ne sais pas si on peut afficher le texte en Marc 2, verset 17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas venu appeler des gens bien sous tout rapport, mais des personnes en souffrance, qui se savent en lutte avec le péché. Et quelque part, si on suit l'idée de Jésus, on pourrait dire que l'Église est donc un hôpital dans lequel nous sommes tous des malades, en tout cas en arrivant. Et c'est vrai qu'on peut être frappé par le nombre de personnes dans l'Église en général qui ont eu une vie compliquée ou marquée par différents types de souffrances. Tout être humain fait face à la souffrance dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux chrétiens, mais j'ai l'impression que dans l'Église, en tout cas dans la nôtre, il y a une concentration importante de personnes qui ont beaucoup souffert. Alors si c'est votre cas, bah, bienvenue à l'hôpital du Seigneur. Et dans cet hôpital, il n'y a qu'un seul médecin chef, et ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui veut apporter du repos à ceux qui sont fatigués et chargés. C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés. C'est lui qui vient restaurer les relations abîmées. C'est lui qui vient consoler ceux qui pleurent, qui vient rendre la vue aux aveugles, qui vient libérer les prisonniers. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais dans cet hôpital, nous ne sommes pas seulement des patients. Nous sommes aussi tous appelés à jouer un rôle dans l'accompagnement, dans le soin, on pourrait dire. Un rôle un peu de soignant. Quelque part, la blouse que j'ai mise, on pourrait tous se la mettre ce matin. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin. Comment être une église où on prend soin les uns des autres? Comment la communion fraternelle peut être utilisée par Dieu pour soigner la souffrance des uns ou des autres? On va d'abord développer un peu cette idée de l'église hôpital. Quels seraient les différents aspects de l'église hôpital? Quelques exemples de la manière dont la vie d'église peut amener la consolation, la restauration pour ceux qui souffrent. Premier point. Quand un malade arrive en général en urgence à l'hôpital, la première chose que les services hospitaliers vont faire, c'est l'accueillir et écouter, s'il peut parler en tout cas, quel est son problème. Peut-être observer aussi, faire des examens peut-être. Je crois que de la même manière, en tant qu'Église, on est d'abord appelé à accueillir ceux qui souffrent. Romains 15, verset 7, dit ceci: accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a accueillis dans sa famille, dans son peuple, dans son royaume, malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos manquements, malgré une vie pas toujours à sa gloire. Pensez aussi à la compassion de Jésus. Dans les évangiles, il y a pas mal de récits où des malades viennent trouver Jésus. Et Jésus démontre une compassion pour ceux qui souffrent. Il accueillait les malades. Il écoutait aussi leurs besoins. Parfois, il leur disait, voilà, de quoi as-tu besoin? Que veux-tu? Et c'est ce même état d'esprit de compassion, d'amour que nous sommes appelés à revêtir. Comme dit Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Deuxième aspect, deuxième exemple qui me semble important dans la vie de l'Église par rapport à la souffrance, c'est la prière. Là aussi, si on reprend l'image de l'hôpital, lorsqu'un malade arrive aux urgences de l'hôpital, on a pris le temps de l'écouter, on essaye de voir un peu quel est son problème, et ensuite on va l'orienter vers des soignants, vers des personnes qui pourront le soigner, les infirmières, les médecins, des spécialistes ou autres. Dans l'église d'hôpital, il n'y a qu'un seul, je l'ai dit tout à l'heure, médecin-chef. C'est le Dieu trinitaire. Il n'y en a qu'un seul qui guérit. C'est lui seul, notre Dieu, qui peut guérir les cœurs brisés, qui peut reconstruire les vies détruites, qui peut guérir les malades. Et c'est pour ça que c'est important de lui confier dans la prière, de remettre dans la prière ceux qui souffrent. Les orienter vers le seul qui peut les restaurer et les guérir. Jacques, chapitre 5, indique « L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Que vous soyez priez, vous voyez l'exemple qui est donné là, priez pour les malades, les uns pour les autres, pour ceux qui souffrent. Ça, c'est notre responsabilité à tous, hein, pas seulement les responsables de l'Église. Oui, les responsables de l'Église peuvent parfois prier au nom de l'Église dans certains moments, en faisant l'onction d'huile par exemple, mais la fin du texte rappelle, c'est tout le monde qui est impliqué, priez les uns pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu guérira toujours instantanément la personne, surtout quand on pense à des blessures peut-être psychologiques, morales, ou même une maladie physique. Dieu utilise différents moyens pour la guérison, pour la restauration. Et notamment, il se plaît à responsabiliser l'être humain. Notre Dieu n'a pas fait de nous des marionnettes, mais il nous a créés avec un cerveau. Et il nous a responsabilisés dans la création. Il nous a donné ce cerveau qui nous permet d'observer la nature que Dieu a créée, qui a permis à l'être humain de développer la médecine, de comprendre aussi parfois le fonctionnement un peu de nos comportements, le fonctionnement de l'âme, qui est la psychologie. Et Dieu peut aussi utiliser la médecine, psychologie, pour amener quelqu'un vers la guérison. Mais à travers la prière, qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons que, ultimement, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, c'est Dieu qui est la source de toute guérison, de toute restauration, de tout ce qui est bon pour notre vie. C'est lui qui est la source ultime de tout cela. La prière est donc importante pour amener vers Dieu tous ceux qui souffrent. Troisième exemple. Dans l'hôpital de Dieu, il y a un chirurgien hors pair, spécialiste des opérations, c'est le Saint-Esprit. Laissez opérer le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre aspect que le Seigneur veut utiliser pour participer à la restauration, à la consolation de ceux qui souffrent. C'est ce qu'on appelle aussi parfois dans nos églises les dons de l'esprit. En 1 Corinthiens au chapitre 12, Paul mentionne quelques dons comme la prophétie, les paroles de connaissance, de sagesse inspirées par le Saint-Esprit, mais aussi des dons de guérison, des dons de miracles. Car figurez-vous que le divin médecin souhaite nous impliquer dans les soins. Et pour cela, il nous laisse son esprit, sa présence, le Saint-Esprit qui vit en nous. Est-ce qu'on réalise que c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant qui habite en nous, si nous sommes en Christ? Est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? Le Dieu Tout-Puissant réside en nous. Et ce n'est pas juste quelque chose que Dieu nous donne pour qu'on puisse se faire du bien. Les dons spirituels, ce n'est pas là pour se gargariser spirituellement. Les dons spirituels sont donnés à l'Église pour le bien commun. Un peu plus loin, au chapitre 14, Paul explique notamment pourquoi, lorsqu'on est réunis, c'est plus important la prophétie par rapport au parler en langue. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Les dons spirituels, vous voyez, ici sont pris comme un exemple, la prophétie, pour encourager, réconforter, aider l'Église à se fortifier, à grandir. On est bien dans le domaine, vous voyez, là aussi, de la souffrance parfois. Et quand nous accueillons quelqu'un qui souffre, quand il y a un frère ou une sœur ou quelqu'un qui vient nous partager ses souffrances, c'est bien de se rappeler qu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous, en tant que chrétien, et que peut-être on peut dire au Saint-Esprit, ben, inspire-moi peut-être une parole de réconfort, inspire-moi une parole de consolation, une parole de sagesse, ou une parole de foi, pour prier aussi si c'est une maladie par exemple. N'oublions pas que le Saint-Esprit est en nous et qu'il veut nous utiliser. Quatrième façon par laquelle l'Église hôpital peut participer et accompagner ceux qui souffrent, c'est aussi l'aide matérielle. L'aide matérielle, financière ou pratique. Dans les hôpitaux, vous savez, vous avez généralement des services sociaux qui vont aider les malades à faire les démarches, par exemple, pour pouvoir obtenir les aides financières dont ils auraient besoin pour payer leurs soins. Parce que parfois, ils ne sont pas bien couverts. Ou parfois, pour mettre en place une aide à domicile qui soit liée. Vous avez des assistantes sociales à l'hôpital. De la même manière, l'Église est appelée à ne pas rester insensible face aux besoins matériels de ceux qui souffrent. Et dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs passages qui montrent que les premières églises soutenaient financièrement en particulier les veuves et les orphelins. Par exemple, Jacques 1, verset 27, encourage dans ce sens en disant que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Vous savez, à l'époque biblique, les orphelins, les veuves, sont les personnes vulnérables par excellence. Pourquoi ? Parce que non seulement ils souffrent à cause de la perte d'un être cher, la souffrance du deuil qui est là, mais à cette souffrance du deuil, souvent, pouvait s'ajouter une souffrance liée à la pauvreté, parce qu'il y a la perte de revenus du mari pour une veuve, du père pour un orphelin. Et le Dieu des veuves et des orphelins invite ses enfants à manifester sa compassion pour ces personnes dans le besoin. De la même manière, on peut réfléchir à comment accompagner ceux qui vivent une souffrance qui est liée aussi à des questions matérielles. Cinquièmement, je dirais que nos cultes et nos rencontres où on loue Dieu, on prie ensemble, on se met à l'écoute de sa parole, c'est peut-être un peu comme des réunions d'équipe ou des réunions de service. Vous savez, dans un hôpital, dans un service, voilà, parfois on fait une réunion du staff, une réunion de service, où tout le monde se rassemble pour faire le point ensemble. Qu'est-ce qu'on fait durant nos cultes, comme aujourd'hui? D'abord, ce qu'on a fait tout à l'heure, on a adoré Dieu ensemble, on a loué Dieu. par la louange, par la prière commune. Et quand on fait cela, nous orientons les regards, les nôtres, mais aussi ceux qui sont là, les uns et des autres, vers qui? Vers le Seigneur, vers notre Dieu, vers le médecin-chef, le Dieu Tout-Puissant, le seul qui peut restaurer, transformer les vies. Et ça participe au processus de restauration. Et souvent, il y a des choses fortes qui se vivent dans la louange. Le Seigneur vient guérir parfois des blessures profondes et des témoignages comme cela. Ensuite, après avoir adoré Dieu, on se met à l'écoute de sa parole à travers la prédication des Écritures. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les meilleurs conseils possibles que nous a laissés notre Dieu pour là aussi nous éviter bien des blessures et des douleurs au cours de notre marche sur cette terre. Et enfin, ce qu'on fait habituellement dans nos cultes, c'est qu'on partage le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Cène. Et c'est un moyen de dire, en prenant ce pain et cette coupe, de dire avec notre corps, puisqu'on mange, on boit, que c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et on le dit ensemble, et on se le rappelle aussi les uns aux autres. Que c'est par ses souffrances que nous sommes restaurés, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est le point central pour la restauration de l'humanité dans le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on rappelle à travers ce repas. Et c'est ce qu'on se rappelle les uns aux autres aussi. Vous voyez quelques exemples, je pense qu'il y en aurait peut-être d'autres, mais quelques exemples de la manière dont nous pouvons être une église un peu hôpital, qui prend soin de ceux qui souffrent et qui les amène vers la guérison, parce que c'est bien ça l'objectif, c'est pas de rester dans son état. Et maintenant qu'on a vu cela, quel est notre rôle à chacun dans cette église hôpital? Quel est notre rôle? Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que dans cet hôpital, nous sommes tous à la fois des patients et des soignants. C'est un peu différent d'un hôpital classique où normalement vous avez le personnel soignant d'un côté et les patients d'un autre. Ici, on est tous un peu dans les deux camps. On est tous un peu les deux à la fois. Et premièrement, nous devons d'abord réaliser que nous sommes tous rentrés dans l'Église, en tout cas lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes venus à lui comme des personnes en souffrance, et en particulier comme des personnes qui étaient conscientes du péché qui les atteint dans leur vie. Et qui, parce que nous nous reconnaissons pécheurs, nous avions désespérément besoin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Jésus dit dans le texte que j'ai lu en introduction, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas besoin d'être, on pense pas avoir besoin d'être sauvé. Et donc c'est bien parce qu'on est des êtres pécheurs et perdus qu'on est venu vers Dieu et qu'il nous a accueillis dans sa présence. Jésus n'est pas venu chercher les bien portants, mais ceux qui sont capables de reconnaître leurs besoins de salut, de restauration. Alors ça, on le reçoit une fois pour toutes à la conversion. On est sauvé. On est sauvé en Jésus-Christ par le sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la souffrance de la vie humaine, on pourrait dire, disparaît une fois qu'on est converti. En sens qu'on n'aurait plus jamais aucun problème, plus jamais aucune souffrance dans nos vies. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous passons tous par des temps de souffrance. Parfois c'est la maladie, parfois c'est des circonstances difficiles, parfois c'est la perte d'un être cher, la souffrance du deuil, les malheurs subis aussi par nos proches, quand on a des enfants qui souffrent ou qui vont mal, ça nous fait souffrir aussi. Parfois c'est aussi des péchés avec lesquels on continue de lutter et avec lesquels parfois ça nous fait encore souffrir. On avait parlé il y a 2 semaines de cette question. Mais dans ces situations, la parole de Dieu ne nous invite pas à faire semblant que tout va bien. Ou à croire que moi je suis suffisamment fort pour affronter avec mes propres forces ces questions-là. Qu'est-ce que nous recommande la parole de Dieu? C'est d'apprendre à reconnaître justement nos faiblesses. et que dans nos faiblesses, nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vous invite à relire la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, dans laquelle l'apôtre Paul, il ne cesse de rappeler ses souffrances et comment Dieu a manifesté sa gloire, à travers elle. Et il nous invite à reconnaître que nous sommes comme des vases de terre, comme des vases de terre. Un vase de terre, c'est fragile. Et le Seigneur, pourtant, utilise ces vases-là, dit-il, pour manifester sa gloire. Mais si nous souhaitons que le Seigneur nous utilise pour sa gloire, il faut être conscient de nos faiblesses. Il ne faut pas faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Mais accepter que nous avons besoin de guérison, accepter que nous avons besoin de restauration. Et je crois que beaucoup, malheureusement, de scandales et de difficultés dans la vie des églises sont dus au fait que des hommes ou des femmes n'ont pas accepté de reconnaître leurs faiblesses, n'ont pas accepté de reconnaître leurs souffrances ou leurs blessures. Et si vous laissez une plaie infectée sans rien faire, je ne suis pas un médecin, mais il me semble que ça ne va pas s'arranger. C'est important de pouvoir reconnaître ce qui ne va pas dans sa vie. Non pas pour s'y morfondre, mais parce que si on ne reconnaît pas cela, on ne peut pas avoir besoin de soins. On ne peut pas accepter qu'on a besoin de se faire soigner, qu'on a besoin de progresser, que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seul. Mais si nous réalisons cela, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit, bienvenue à l'église hôpital. Ça c'est un premier point, reconnaître, soyons honnêtes avec ce que l'on vit. C'est important pour progresser dans la vie chrétienne et laisser le Seigneur nous restaurer. En même temps, deuxièmement, si nous faisons partie de l'Église, on n'est pas seulement des patients, on pourrait dire, on est aussi des soignants. C'est là que c'est un peu particulier. On a tous un rôle à jouer dans les soins que le Seigneur veut apporter les uns aux autres. Et pour cela, justement, le Nouveau Testament emploie souvent une formule qu'on trouve dans beaucoup de textes, qu'on traduit par « les uns, les autres ». Tous ces textes qui disent « les uns, les autres ». J'en ai déjà mentionné plusieurs dans cette prédication. « Accueillez-vous les uns, les autres. Priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. » On pourrait en ajouter d'autres, par exemple, encouragez-vous ou réconfortez-vous les uns les autres. Portez vos fardeaux les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous concernés, les uns comme les autres. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous sommes concernés, c'est justement parce que nous sommes aussi des personnes en souffrance ou qui ont connu la souffrance à un moment dans leur vie. Et il y a un très beau passage à ce sujet en 2 Corinthiens 1, c'est le début de la lettre, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Paul, comme d'habitude dans ses lettres, il commence par prier, louer Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses. Pourquoi? Pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables à notre tour de consoler, par la consolation que nous recevons de Dieu. Dieu nous console en Jésus-Christ et nous sommes appelés à notre tour à consoler les autres par la consolation reçue de Dieu. Et c'est beau comme image. Alors si nous sommes tous impliqués dans l'église hôpital, ça ne veut pas dire que nous avons forcément tous exactement le même rôle à jouer. Parce que, là aussi, l'apôtre Paul utilise cette image en 1 Corinthiens 12 de l'Église comme d'un corps. L'Église est comme un corps, le corps du Christ, dont chacun d'entre nous est comme un organe différent, un membre différent. Et dans un corps, les organes sont différents, ils n'ont pas tous le même rôle, pas tous la même fonction, mais ils sont tous importants. Et de la même manière, dans l'Église, on peut avoir des rôles ou des fonctions différentes en fonction de qui nous sommes, en fonction des dons que le Seigneur a placés en nous, en fonction aussi du cheminement qui est le nôtre. Dans l'Église hôpital, il y a d'une certaine manière des docteurs, c'est le mot qui est utilisé pour enseignant, dans le sens d'enseignant. Il y a aussi des personnes qui peuvent avoir un rôle de coordination, un peu comme les cadres hospitaliers. On a besoin de responsables aussi qui coordonnent la vie de l'Église. Et puis de la même manière que dans un hôpital, chacun fait pas la même. Tous ceux qui travaillent dans un hôpital font pas la même chose. Hein. Il y en a qui sont doués pour accueillir, pour écouter. Il y en a d'autres qui sont doués pour discerner, pour poser un diagnostic. D'autres pour prendre soin, pour être avec ceux qui souffrent. D'autres encore pour faire en sorte que les lieux restent propres, rangés, accueillants. Certains peuvent être particulièrement utilisés par Dieu pour transmettre des paroles inspirées à propos qui vont toucher les personnes en souffrance. Certains, le Saint-Esprit donne une foi particulière dans la prière pour les malades. Et on voit des guérisons aussi parfois qui se manifestent plus particulièrement avec des uns que d'autres. Il y a aussi des personnes qui sont formées, peut-être douées, pour accompagner ceux qui souffrent, pour prendre du temps avec eux, pour les faire progresser dans leur vie spirituelle. Oui, dans l'Église hôpital, on a tous un rôle à jouer, mais pas forcément tous le même. Et c'est important de se rappeler là. Et ça nous amène à un dernier point de ce message qui me semble important d'évoquer. C'est celui des cadres et des limites par rapport à l'accompagnement de ceux qui souffrent dans l'Église. C'est dans un hôpital, là aussi, l'accueil, le soin des patients est très encadré. Il y a des procédures à suivre, chacun sait quel est son rôle à jouer. Et toutes ces règles, ces principes ne sont pas là pour compliquer les choses, en tout cas normalement, je sais que ce n'est jamais simple dans la pratique, mais normalement c'est là pour faciliter et pour améliorer la prise en charge des malades, pour qu'ils soient mieux soignés justement, en théorie en tout cas. Et d'une certaine manière, c'est un peu aussi cela dans la vie de l'Église. Tout à l'heure j'ai mentionné que dans l'Église du Nouveau Testament, on prenait particulièrement soin des veuves et des orphelins. Et c'est intéressant parce que le Nouveau Testament montre que, en particulier pour le soutien des veuves, ça a rapidement posé des questions très pratiques et très pas toujours simples, des difficultés. Et pour faire face à ces difficultés, on voit qu'est-ce qu'a fait l'Église. On s'est mis comme un exemple, quelque part, conduit par le Seigneur. Ils ont mis en place une organisation avec un certain nombre de règles aussi. Premier exemple, en Actes, chapitre 6. Le livre des Actes, chapitre 6, me raconte comment, au sein de la toute première église qui était à Jérusalem, certains ont commencé à se plaindre. C'était les croyants de langue grecque, c'était tous des juifs, mais des juifs de langue grecque qui étaient là, qui se plaignaient que leurs veuves de langue grecque étaient moins bien traitées que les veuves de langue hébraïque, c'est-à-dire les locaux. Un peu, voilà, les étrangers qui trouvent qu'on prend moins bien soin d'eux, de leurs veuves, que ceux qui sont du coin. Mais comme il n'y a pas de priorité nationale dans la vie de l'Église, les apôtres, ils ont pris le problème au sérieux. Ils ont convoqué une assemblée générale, ils ont demandé à toute l'Église d'élire des personnes qui seront responsables d'organiser les distributions. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas tout faire non plus, les apôtres, dans l'Église. Il fallait qu'ils se concentrent sur l'enseignement, sur d'autres tâches. Et donc, ils ont dit, élisez des responsables qui vont organiser cela. Mais pas n'importe qui. Il fallait des personnes à qui tout le monde reconnaît un comportement exemplaire. Ça, c'est important. Mais aussi une certaine sagesse et une vie conduite par le Saint-Esprit. C'était les critères qui sont mentionnés en acte 6. Et c'est ce qui a été fait. L'Église a choisi 7 personnes pour ce service. L'accompagnement, vous voyez, des personnes en souffrance nécessite aussi parfois, surtout quand on devient nombreux, la mise en place de responsables pour cela. Et dans la vie de notre Église, je crois que c'est un défi particulier auquel nous faisons face dans cette période où l'Église grandit petit à petit, mais nous voyons qu'on a besoin de plus en plus peut-être de responsables à former, à mettre en place. C'est quelque chose auquel on doit travailler ensemble. Autre exemple qui est lié à l'accompagnement des veuves dans le Nouveau Testament, c'est les recommandations qu'on trouve dans la lettre que Paul envoie à Timothée, la première lettre à Timothée, chapitre 5. Alors, je ne vais pas lire, vous pouvez lire à la maison, c'est un passage assez long, mais dans cette section, qu'est-ce que dit Paul ? Paul y recommande à Timothée d'appliquer un certain nombre de règles dans le soutien que l'Église apporte aux veuves. Par exemple, il dit, voilà, il faut que les veuves aient plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'elles soient plus en âge de travailler et aussi un âge où elles ont moins de chances de trouver un nouveau mari, on pourrait dire, parce que dans l'Antiquité, en général, on mariait des femmes jeunes. Il faut aussi s'assurer que les veuves que l'Église aide ne peuvent pas être aidées par leur famille. Voilà ce qu'il va dire. D'abord, si elles peuvent être aidées par sa famille, ben c'est normal, la famille doit d'abord l'aider avant que l'Église intervienne. Enfin, il dit, voilà, il convient que les veuves que l'Église va aider, elles aient aussi un bon comportement, un bon témoignage, et qu'elles participent, si possible, au service de l'Église. Et quand on lit ces recommandations, vous pourrez peut-être les lire à la maison, à Timothée chapitre 5, on peut se dire que de telles règles, c'est un peu rude quand même. Hein. Est-ce qu'on ne devrait pas faire preuve d'une grande générosité sans limite dans l'Église ? Mais je crois que la parole de Dieu nous rappelle qu'il faut être réaliste. Dans notre aide envers ceux qui souffrent, c'est nécessaire de poser parfois un cadre et certaines limites. Parce que sinon, nous risquons de nous épuiser à vouloir aider des personnes qui, par exemple, ne souhaitent pas guérir ou qui ne souhaitent pas avancer. On pourrait aussi être assez vite déçu parce que parfois, on a des attentes qui sont irréalistes et ben, ce qu'on met en place, ça finit comme un feu de paille. Hein. Remarquez que Paul aussi encourage à tenir compte de l'aide qu'une veuve pouvait recevoir en dehors de l'Église, par sa famille. À l'époque, il n'y avait pas de système social ou d'aide centralisée par l'État. C'était surtout les familles hein, qui prenaient soin les uns des autres. Mais de la même manière, on pourrait dire que c'est sage de savoir, se dire, mais voilà, on va aider quelqu'un, mais est-ce que n'y a pas déjà des choses qui existent qui pourraient aussi l'aider ? Peut-être des aides financées par l'État, peut-être des services de soins aussi qui existent. Ça peut aussi être des associations qui font déjà un très bon travail dans ce domaine-là et qui ne sont pas loin, ou d'autres églises parfois qui ont aussi déjà mis en place des choses. Donc c'est bien de réfléchir à tout cela. Et dans l'église hôpital, vous voyez, c'est bon que l'accompagnement soit organisé, que certaines règles soient définies. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, hein, où on serait tellement rigide que la générosité, la compassion n'auraient même plus de place. Ça, c'est parfois l'excès inverse. Mais c'est important de comprendre que la mise en place de responsables, la définition de principes, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et je crois que nous sommes à un moment de notre vie d'Église où on sent, et c'est vrai qu'on discute les uns avec les autres, que l'horizon est un peu ouvert devant nous, dans le sens qu'il y aurait plein de choses à mettre en place. Il y a beaucoup d'idées quand on discute. Là, la semaine dernière, on a eu une journée tous ensemble, samedi, où on a travaillé, on a beaucoup discuté, échangé. C'était le but de la journée. Et il y a plein d'idées, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui semblent judicieux à faire dans la vie de l'Église. Mais il faut aussi avoir cette sagesse de réaliser que pour construire des projets qui tiennent la route, qui tiennent la distance, ben, il faut prendre son temps pour poser des solides fondations. Il va falloir notamment discerner, prendre le temps de former peut-être des responsables. Et donc, c'est des choses qui ont un temps aussi. Mais ah, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Voilà un peu quelques éléments sur l'église hôpital. Et c'est vrai que d'une certaine manière, alors l'image a ses limites, hein, l'image de l'église comme un hôpital, et on ne peut pas la pousser trop loin, mais d'une certaine manière, l'église est un peu comme un hôpital, tous ceux qui souffrent. Et nous sommes cette église hôpital, appelée à accueillir, appelée à écouter, à prier, à exercer les dons, à orienter les regards vers le divin médecin-chef qui est Jésus-Christ. Et dans cet hôpital, on est tous impliqués, tous à la fois patients et soignants, on pourrait dire. Mais j'aimerais terminer avec un texte qui me semble donner une orientation sur laquelle on pourrait s'arrêter pour terminer. S'il y a une chose, je crois, à retenir dans tout cela, dans cette optique de prendre soin les uns des autres, un seul mot d'ordre, c'est d'adopter l'attitude de Jésus-Christ. Adopter l'attitude de Jésus-Christ. Et un beau texte qui évoque cela, c'est Philippiens au chapitre 2, et je voudrais le lire pour terminer ce message. Philippiens 2, versets 1 à 11. Et Paul parle au début des relations dans l'Église et justement de comment on prend soin les uns des autres. Philippiens 2, verset 1. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, parle de la vie de l'Église, hein, en Jésus-Christ, rendez ma joie parfaite en vivant d'un plein accord. » Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à celui des autres. C'est là qu'il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et il va développer cela. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons tourner nos regards vers toi ce matin. Et en particulier vers ton Fils Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, toi qui es Dieu de toute éternité, toi qui es au-dessus de tout, qui es le Dieu tout-puissant, immensément grand et glorieux, tu as fait ce choix de t'abaisser jusqu'à nous, de vivre comme un simple être humain, de souffrir pour nous jusque la mort sur la croix. Et Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, en qui nous sommes restaurés, sauvés, délivrés. Et Seigneur, je te prie qu'en tant qu'Église et en tant que chacun d'entre nous, tu nous aides à adopter l'attitude qui est la tienne, ton exemple. Toi, le Christ, qui s'est abaissé, qui n'a pas cherché en premier lieu son intérêt, mais celui qui est le nôtre. Merci pour ton amour envers nous, merci pour ta compassion, merci pour ton humilité. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous aider d'avoir la même attitude dans nos vies, dans notre vie d'Église. Que nous puissions être une Église qui prend soin les uns des autres. Une Église où tu vas agir, Seigneur, non pas parce qu'on serait des gens forts ou très bien ou très doués, mais simplement parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu qui agit, qui guérit, et nous nous laissons portés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors fais encore ton œuvre dans notre vie d'Église. C'est notre désir, c'est notre souhait ce matin. Te demandons cela au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci au Seigneur pour cette parole et merci à notre pasteur Timothée. Donc j'en profite pour vous dire que nous enregistrons la prédication chaque dimanche et nous la diffusons en semaine sur notre site, le site de l'Église, site internet. Donc si après le culte, voilà, vous voulez avoir l'adresse du site, avec plaisir, je vous la communiquerai. Et également, je pourrais vous donner également un ordre.